Vous êtes sur RTL.
7h44, bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes, je le rappelle, ambassadrice des pôles et bien entendu ancien ministre. Une taxe plus juste, pas juste une taxe. François Langlais vient d'en parler sur RTL. Le Conseil d'analyse économique, qui est rattaché à Matignon, je le rappelle, propose une nouvelle version de la taxe carbone. Et pour éviter une nouvelle fronde, on reverserait l'intégralité de la recette sous la forme, par exemple, de crédit d'impôt aux ménages les plus modestes. Bref, une redistribution sur les revenus. Est-ce que ça vous semble être une bonne idée ?
Non, c'est une très mauvaise idée. Je pense que l'écologie ne doit pas être synonyme d'impôts supplémentaires. Parce que sinon, les citoyens vont se détourner de l'écologie. Or, on a besoin d'une modification en profondeur des comportements pour lutter contre le réchauffement climatique.
Le Conseil propose surtout d'en finir avec les exonérations pour que tout le monde paie, pour éviter, par exemple, que tracteurs, poids lourds ne bloquent les routes, le transport aérien, les routiers, tout le monde devrait payer. Vous nous dites, c'est une mauvaise façon d'aborder les choses.
Écoutez, on a les gilets jaunes dans la rue à cause de l'hystérie fiscale, qui ne date pas d'aujourd'hui, d'ailleurs. Et par conséquent, il faut arrêter cette hystérie fiscale. De quoi s'agit-il pour lutter contre le réchauffement climatique ? Il s'agit d'utiliser moins de pétrole. C'est assez simple. Il faut préparer l'après-pétrole. Donc, si vous taxez les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique, une voiture à hydrogène, une voiture au biocarburant, c'est-à-dire des voitures propres, vous les prenez une nouvelle fois en otage.
Je vais être plus précis. Les recettes, en partie, reviendraient aux ménages les plus fragiles, ceux qui sont notamment en périphérie et qui sont contraints de porter leur voiture, d'utiliser leur voiture, par exemple, pour aller travailler ou pour faire régulièrement leurs courses. C'est-à-dire que c'est un système de redistribution, mais avec une taxation générale. Vous dites, de tous les cas, la taxation est une mauvaise chose.
Reculer l'utilisation du pétrole. Dites-moi, en quoi ?
C'est la question qui est posée.
Ben voilà, une fois de plus, des beaux esprits qui ne sont pas au contact du terrain nous inventent une nouvelle fois des tours de passe-passe fiscaux. Et on sait très bien, plus que ça ne marche jamais, d'aller prendre aux uns pour donner aux autres, parce qu'entre les deux, on ne sait pas où passe l'argent. Et donc, ceux qui ressortent aujourd'hui ce genre de propositions n'ont rien compris à la question du réchauffement climatique.
Votre réponse est claire, c'est une mauvaise idée. On va parler du glyphosate. Mardi, un jury californien a jugé le Roundup de Monsanto cancérigène. C'est un facteur substantiel dans l'apparition d'un cancer d'un septuagénaire, nous dit la justice californienne. Il avait utilisé le Roundup pendant 25 ans sur sa propriété. Plus de 11 000 cas similaires attendent d'être jugés aux États-Unis. Est-ce que ça peut faire bouger les choses ici en Europe ?
Bien sûr, parce que par rapport aux pollueurs, il n'y a que la peur de la sanction qui les fait changer d'avis, que le risque financier. Et le jour où ils seront condamnés à de lourdes indemnités, ils comprendront enfin qu'il faut changer les process de production. Et en plus, ma conviction, c'est que des brevets existent, mais que ces grandes entreprises polluantes comme Monsanto essayent de rentabiliser au maximum, tant qu'il n'y a pas de résistance en face, essayent de rentabiliser au maximum des brevets qui sont déjà amortis et dont on sait parfaitement qu'il porte atteinte à la santé publique.
Vous venez de me dire ma conviction.
Vous savez que c'est moi qui ai retiré le Roundup de la vente, de la vente libre en jardinerie. Quand j'ai fait ça, les résistances et les lobbies que je raconte d'ailleurs dans mon livre, ce que je peux enfin vous dire, ont été terribles. On m'a dit que c'était pas possible, etc. Les circuits même de distribution résistaient. Du jour où ça a été fait, vous m'entendez ? Du jour où ça a été fait, soi-disant, ça allait semer le chaos, il y aurait plus de produits, etc. 8 jours après, il y avait les produits de substitution qui était dans les rayons non nocifs, c'est-à-dire élimination du glyphosate. Et ensuite, les jardiniers m'ont dit, mais finalement, on n'a jamais gagné autant d'argent parce qu'avec les produits naturels, les gens en achètent plus. Vous voyez, c'est ça la transition. La transition écologique.
Je précise que l'action Bayer a perdu 10% en bourse
tant mieux.
Hier. Mais ce que vous nous dites et qui est important, c'est vous.
En plus, ils ont racheté Monsanto au mauvais moment.
Oui, ils ont, selon vous, d'ores et déjà des produits de substitution.
Mais bien sûr.
Et ils ne les mettront sur le marché que contraints et forcés avec des pressions de ce type.
Mais bien sûr. C'est d'ailleurs un phénomène assez répandu dans l'industrie, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a une résistance à l'innovation parce qu'on veut garder les parts de marché, on ne veut pas rentrer dans la transition industrielle qui est plus difficile. Et donc, tant qu'il n'y a pas un pouvoir politique fort qui donne des instructions et des avantages à la transition écologique, il y a une résistance. Regardez, dans la voiture électrique, elle est au point depuis 10 ans, la voiture électrique. Pourquoi pourquoi est-ce que les parts de marché et nos producteurs et nos fabricants de voitures électriques ne vont pas plus vite? Parce qu'ils n'ont pas assez de contraintes.
Céline Royal, nos agriculteurs eux-mêmes nous disent en ce moment, on n'a pas les produits de rechange. Évidemment qu'on est d'accord pour passer à autre chose. On a travaillé avec ça et on est paniqué à l'idée de se dire que demain, nos rendements et la façon dont on va gérer notre agriculture puissent basculer comme ça si rapidement et sans le produit alternatif. Vous nous dites que le produit existe.
Bien sûr. Et les agriculteurs sont les premières victimes de l'utilisation des produits chimiques. Oui. La prévalence des cancers chez les agriculteurs est très élevée. Et ça a été caché pendant très longtemps. Maintenant, on le sait. Et les agriculteurs sont conditionnés par les revendeurs qui leur racontent qu'il n'y a pas les produits de substitution. Je l'ai observé, moi, pour les jardineries, qui avaient les produits de substitution qui n'étaient pas mis sur le marché. Donc aujourd'hui, on a développé les communes zéro pesticide, et ce qui était impossible est miraculeusement devenu possible.
Donc vous parce dites, que ils feront bouffer produits... leur Roundup jusqu'au bout,
exactement,
jusqu'à la dernière goutte, si je puis dire, et après, ils mettront sur le marché les produits qu'ils ont
et
déjà.
Et je vais même vous dire à quel point le cynisme a été fort, c'est que le jour où la date fatidique est arrivée pour retirer le Roundup des rayons, quelques semaines avant, ils ont fait les grandes de producteurs et les surfaces de distribution ont fait une promotion, une baisse des prix, ils ont cassé les prix, ils ont vendu à perte le Roundup pour éliminer les stocks. Et donc c'est là où il faut qu'on ait un État fort pour pouvoir mettre des règles dans l'intérêt général.
Parlons des violences à Paris. Est-ce que vous avez un message aux derniers gilets jaunes et à ceux qui ont fait la jonction avec les Black Blocs, comme on l'a vu sur les Champs-Élysées samedi dernier ?
Qu'il faut cesser la violence, parce que la violence va se retourner, et se retourne déjà contre le bien fondé des demandes, des aspirations initiales des Gilets jaunes.
Les militaires de la mission antiterroriste Sentinelle seront mobilisés samedi prochain pour la protection des sites sensibles. Les mesures prises vous semblent-elles à la hauteur de l'échec initial et la présence des militaires vous semble-t-elle logique?
J'ai vu que ça soulève une polémique, la présence des militaires. Je vais vous faire un aveu, je me suis demandé pourquoi ça n'avait pas été fait plus tôt. Parce que les atteintes, notamment aux bâtiments publics, ça ne me choque absolument pas que les militaires protègent les bâtiments publics. Alors on entend dire, mais c'est pas, les militaires sont là pour lutter contre le terrorisme.
Oui.
Certes, les Black Blocs ne sont pas des terroristes, mais ils sèment la terreur. Et donc c'est la même chose. Et ce qui s'est passé, c'est que les policiers et les gendarmes devaient à la fois protéger les bâtiments publics et en même temps gérer les mouvements de foule et gérer l'humain. Donc là, les compétences sont parfaitement bien établies, puisque les militaires vont gérer la protection des bâtiments publics et privés, et ainsi les forces de l'ordre pourront se consacrer à la gestion pour qu'il n'y ait pas d'accident, justement.
Vous êtes une responsable politique, et alors dans tous les sens du terme responsable, à partir du moment où nos militaires protègent, par exemple, des bâtiments publics et qu'ils sont armés, ça veut dire que si on attaque ces bâtiments publics, ils vont utiliser leurs armes. Qu'il peut
mais
y
non,
avoir des morts,
mais non,
mais on
non.
est obligé d'y penser.
Non,
il faut aller
non,
au bout de la logique.
Non,
ah
non, non, je pense que c'est extrêmement dissuasif.
La simple présence.
Je suis pas sûr d'ailleurs. Ah oui, la simple présence, bien sûr, c'est dissuasif. Hein.
Vous étiez favorable à une fermeture des Champs-Élysées. L'avenue pourrait être fermée en cas de présence d'individus ultra, nous a dit le Premier ministre. Ça vous semble une décision définitivement sage?
Oui.
Oser
fermer les jamais les Champs-Élysées n'auraient dû être accessibles aux manifestations et aux casseurs. Parce que c'est l'avenue symbolique, ça symbolise la France. Et n'oublions pas que ces images font le tour du monde, qu'elles dégradent l'image de la France. Et les Champs-Élysées, c'est les défilés du 14 juillet. Les Champs-Élysées, c'est le lieu des visites d'État, des défilés de la garde républicaine. Donc ça doit être sanctuarisé.
On s'est interrogé sur la chaîne de commandement. Christophe Castaner est-il toujours l'homme de la situation en tant que ministre de l'Intérieur, selon vous, après ce qu'on a vécu la semaine dernière?
Ça, c'est au chef du gouvernement d'en décider.
Vous refusez de vous prononcer là-dessus?
Oui.
Très bien. Alors parlons des élections européennes qui nous intéressent et qui vous intéressent. L'Europe est un de vos engagements majeurs de longue date. Vous avez porté les couleurs du Parti Socialiste, je le rappelle, à l'élection présidentielle, même si vous n'êtes plus adhérente. Voir le PS s'effacer au profit de Raphaël Glucksmann, est-ce que ça vous choque ?
Non, ça ne me choque pas. Et d'ailleurs, je trouve que les critiques venues de ceux qui ont dirigé le parti pendant plus de 10 ans, et qui, quand même, sont responsables aussi de la situation du Parti socialiste. C'est-à-dire que quand même, il y a eu un quinquennat où les socialistes étaient aux responsabilités. À la fin de ce quinquennat, on a le candidat socialiste qui fait 6%. Et à la fin de ce quinquennat, on a la vente du siège du Parti socialiste. Oui. Quand une entreprise vend son siège, en général, c'est qu'elle est en faillite. Donc on a une situation de faillite du Parti socialiste. Donc ceux qui ont exercé les responsabilités, je pense, peuvent être appelés à plus de retenue par rapport à la critique qui est faite aujourd'hui de cette tentative de rassemblement.
Là, donc, ce rassemblement vous semble légitime dans la situation qui est celle du Parti socialiste, dont pourtant, enfin, avec, qui a porté votre vie politique?
Oui, mais ça, c'est l'appareil du Parti socialiste. Peu importe. Ce qui est important, ce sont les militants, les citoyens, les idées du Parti socialiste. C'est pas, comment dirais-je, défendre coûte que coûte un appareil. Cet appareil, il est exténué. À un moment, la SFIO a disparu pour créer le Parti Socialiste. Eh bien, je pense qu'on est dans cette phase-là. Et donc, faire venir vers le Parti Socialiste des hommes et des femmes qui ont envie de participer au débat d'idées, de renouveler le logiciel du Parti Socialiste, mais c'est très positif.
Vous nous dites le PS est mort, il faut qu'il se...
L'appareil du PS
l'appareil
est mort. Pas les idées. Je ne pense pas regarder la soif de justice et d'efficacité et de transition énergétique et de mutation et d'une société globale qui fonctionne mieux que ce qu'elle ne fonctionne aujourd'hui, parce qu'il y a ça aussi dans les revendications. Il n'y a pas seulement des revendications opérationnelles et des réformes techniques à faire, mais il y a aussi la vision globale de la société qui aujourd'hui dysfonctionne. Et donc, un débat d'idées incarné par le socialisme, c'est-à-dire un mouvement politique qui a toujours lutté pour la justice, pas d'ailleurs suffisamment, pendant très longtemps, par exemple, il n'a pas du tout lutté contre les injustices entre hommes et femmes, il ne s'est pas du tout intéressé à la transition écologique, donc il y a aussi des mutations internes, mais on a besoin en démocratie de ce débat d'idées.
Est-ce que vous, Ségolène Royal, vous allez soutenir officiellement cette liste qui allie le Parti Socialiste à Raphaël Glucksmann et à son mouvement dans le cadre de ces élections européennes?
Vous savez, moi je vais regarder les projets, parce que justement on est dans une phase de mutation. Et c'est pas parce que, et j'ai pas de réflexe pavlovien en disant je vais soutenir telle ou telle étiquette. C'est fini pour moi les étiquettes politiques. Donc je regarde par rapport aux enjeux européens, aux enjeux planétaires, qui sont très directement reliés aux enjeux locaux. Donc que ceux qui prennent des initiatives soient à la hauteur des défis qui sont devant nous.
Mais vous allez vous engager et vous ferez savoir quelle est la liste ou le programme qui vous semble le plus intéressant.
Mais peut-être que je vais trouver
votre voix est écoutée. Oui. Elle dépasse certainement le simple clivage de la droite et de la gauche
absolument,
dans notre pays.
Oui.
Et donc, je dirais, voilà, je ne demande pas de consigne de vote, je vous demande si à un moment ou à un autre, vous allez nous dire oui, je soutiens cette liste parce que ce projet me semble être le mien. Et je rappelle que vous avez salué en tout cas le courrier qu'avait envoyé Emmanuel Macron à l'ensemble des Européens.
Oui, mais je...
Donc là, je suis en train de gentiment vous demander si vous allez soutenir la liste d'Emmanuel Macron.
Je vais regarder sur le compte. Je dirais ce que je trouve bien dans les propositions, dans les projets qui sont faits. Parce que de toute façon, au lendemain des élections, il va y avoir une recomposition au Parlement européen. On le voit par rapport à la montée des nationalismes en Europe, par rapport à la vision d'un bon fonctionnement de l'Europe et par rapport à l'aspiration des citoyens et justement sur plus de justice sociale en particulier, sur plus d'éducation, sur plus de formation. Et par conséquent, je crois qu'il ne faut pas que pendant la campagne européenne, les listes qui sont pro-européennes avec une meilleure Europe, bien évidemment, soient trop tendues les uns envers les autres, ou trop radicaux, enfin, vous voyez, trop violents, ou que la campagne ne dégénère, parce que demain, il va falloir nouer des alliances qui vont permettre à l'Europe de fonctionner.
C'est donc l'avenir de l'Europe et les conditions des alliances possibles qui vont déterminer votre
exactement
choix dans ces élections européennes.
Tout à fait.
Merci beaucoup Ségolène Royal d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne d'RTL. Très bonne journée à vous.